La société m'importune à l'excès. Elle me fatigue tellement que, faisant sans cesse des reproches à tout le monde, j'ai à peine assez de raisons pour m'apercevoir que c'est moi qui les mérite. Mon enfant est tout ce qui m'intéresse, et sans elle, je ne me donnerai aucun soin pour rétablir ma santé. Puisqu'il le faut, je vais la sevrer et essayer si par cette démarche, qui me cause la plus grande répugnance, car je n'avais pas d'autre plaisir que de l'allaiter, je pourrais me débarrasser de mon rhume. Les médecins parlent beaucoup du danger que court une femme qui a nourri pendant quelques mois de s'affaiblir les poumons. Ils me font sentir aussi la nécessité d'avoir l'âme tranquille. Eh, mon Dieu, que d'affliction la mienne a eu à supporter. Mais tandis que les moindres caprices des autres femmes sont satisfaits, que le vent du ciel ne fait que les effleurer délicatement, je n'ai trouvé, ni dans le ciel, ni sur la terre, aucun ange protecteur qui ait détourné de mon sein les chagrins et les inquiétudes. Au commencement d'avril 1795, M. Imlay, prétextant toujours des affaires pour prolonger son séjour, l'engagea de venir le rejoindre à Londres. « Je vole vers vous, lui écrivait-elle du Havre, et je vous écris simplement pour vous annoncer que vous pouvez m'attendre dans 3 ou 4 jours, car je ne veux point essayer de vous peindre les différentes émotions qui agitent mon cœur. Vous allez appeler fierté ce qui me semble être un degré de délicatesse qui provient naturellement de la sensibilité. Mais je ne puis me livrer avec calme à la tendre affection dont mon cœur est enflammé avant d'avoir pu juger dans vos yeux si vous la partagez. Je me perds dans les réflexions en portant ma vue sur la mer. Des larmes s'échappent de mes yeux quand je songe que je chéris une folle espérance. En effet, j'ai été si malheureuse cet hiver que je trouve aussi difficile de concevoir un nouvel espoir que de recouvrer la tranquillité. Mais c'est assez m'entretenir d'un sujet pénible. Calme-toi, cœur insensé. Si ma petite fille ne me retenait, je souhaiterais presque qu'il cessât de battre pour ne plus être en proie aux angoisses. Du Havre, elle partit pour Londres, le cœur agité de 1000 présages sinistres, et n'osant se bercer d'un espoir qui avait été si souvent abusé, elle ne revint dans son pays natal que pour voir les craintes les plus cruelles se justifier par l'infidélité et l'abandon d'un homme à qui elle avait follement confié le soin de son bonheur. « Je me suis efforcé, lui dit-elle, dans une lettre datée de Londres, de calmer mes esprits depuis que vous m'avez quitté. Mais je me suis convaincu que la tranquillité ne peut s'obtenir par des efforts. C'est un sentiment si différent de la résignation du désespoir. Cependant, je ne suis plus fâché contre vous, et vous ne recevrez plus de moi aucune plainte. » Il est des arguments qui commandent à la raison, tout en portant la mort dans le cœur. Nous avons eu de trop cruelles explications. Non seulement elles obscurcissent toute perspective future, mais elles assaisonnent d'amertume les souvenirs qui donnent seuls la vie à l'affection. Que ce sujet soit pour jamais enseveli dans l'oubli. Il me semble que j'ai perdu non seulement l'espérance, mais même le pouvoir d'être heureuse. Ces tendres émotions qui faisaient le charme de mes jours sont maintenant aiguisées par la douleur. Mon âme a été ébranlée et ma sensibilité a essuyé un rude coup. Je suis sorti pour chercher non de l'amusement mais de la distraction et je trouve mes nerfs encore plus irrités. Mon ami, mon cher ami, interrogez-vous bien. Je m'éloigne de la question, car hélas, je ne suis rien pour vous. Confessez-moi quelles sont vos intentions. Que puis-je faire pour vous de plus agréable ? Ou pour mieux m'expliquer, que préférez-vous de vivre avec moi ou de me quitter pour jamais ? Lorsque vous serez bien déterminé sur un de ces deux partis, de grâce, dites-le-moi franchement, car je l'avoue, je sens que j'ai troublé, bien involontairement, votre repos. Je ne veux pas vous affliger en vous entretenant de l'abattement de mes esprits et des efforts que je fais pour soutenir mon cœur prêt à m'abandonner. Il est maintenant trop accablé pour me permettre d'écrire avec calme. Cher ami, suis-je donc destiné à éprouver des agitations aussi cruelles? Ne trouverai-je jamais un asile où je puisse goûter la paix de l'âme? Comment pouvez-vous aimer à voltiger continuellement? Pourquoi n'êtes-vous pas sensible aux douces sensations que fait naître l'idée du bonheur domestique? Cette idée qui, dans ce moment même, vient humecter mes yeux. Ce sont là les vraies affections. Tout le reste n'est qu'un plaisir sensuel électrisé par la sympathie. Pourquoi persévérer opiniâtrement dans une funeste passion? Parce qu'il est de l'essence de l'affection de chercher à se perpétuer elle-même. Il n'aime pas véritablement celui qui peut renoncer aux doux sentiments de l'amour sans éprouver les souffrances les plus aiguës. Elle demeura pendant environ 7 semaines avec M. Imlay sous un même toit, dans une maison garnie qu'il avait fait disposer pour la recevoir. Mais elle fit de vains efforts pour émouvoir sa sensibilité et réveiller sa tendresse. Autant elle avait témoigné de confiance, autant elle eut à éprouver de mortification. Elle apprit par une triste expérience que le vice endurcit le cœur, anéantit ses plus belles affections et lui ôte même jusqu'au remords en le rendant insensible à tout sentiment de justice et d'humanité. Cet homme, des principes duquel elle avait la plus haute opinion, que son imagination avait associé à toutes les vertus, oubliait dans les bras d'une jeune actrice qui faisait partie d'une troupe de comédiens ambulants les devoirs sacrés de père et le tendre engagement qui l'unissait à la plus vertueuse des femmes. La force d'une passion consiste principalement dans l'imagination de la personne sur laquelle elle opère. Une femme, en esquissant un tableau grand et idéal, s'attache à des qualités imaginaires, liées très souvent, par de légères nuances, aux qualités réelles de son amant. Cependant, des sentiments produits par une telle cause ne sont pas les moins vrais, les moins dans la nature. Quoique faux dans leurs principes, ils sont peut-être les plus doux et les plus sublimes qui honorent le caractère humain. Quiconque n'a point éprouvé leur empire peut se glorifier de la fermeté de son cœur, prétendre à nos respects. Mais c'est sur l'être accessible à ces délicieuses sensations que toutes les affections touchantes s'impriment volontairement. Cet enthousiasme qui constitue les plus grandes passions est fondé sur l'illusion. Que sont les objets pour lesquels l'ambition traverse des flots de sang, pour lesquels les martyrs dans toutes les causes, dans toutes les opinions, bravant la mort, courent en foule à l'échafaud ou à la potence, si on les dépouille des vives couleurs que leur prête l'imagination? Épuisés par des passions orageuses, rebutés par les désagréments les plus amers, dégoûtés de la vie, cette femme infortunée désirait la mort. Mais ce désir était alors combattu par l'être incapable de remords, qui s'était joué de sa tendresse, de ses souffrances, et qui l'avait réduite à la douleur et au désespoir. La femme qu'il aimait, à qui il avait volontairement donné les titres les plus sacrés, la mère de son enfant, l'ami qui cherchait à ennoblir son caractère, en s'efforçant de faire revivre dans son cœur le sentiment qu'il avait purifié, était sacrifiée à de honteux plaisirs. Repoussant de son cœur le mouvement de désespoir auquel elle avait un moment donné accès, cette intéressante femme réveilla avec une nouvelle force toute l'énergie de son caractère en faveur de l'homme pour lequel elle eût affronté la mort. Une affaire commerciale dans laquelle M. Imlay était essentiellement intéressé en Norvège demandait la présence d'un agent actif. En cette occasion, Marie Wollstonecraft offrit généreusement de faire ce voyage, accompagnée d'une seule domestique et de la petite Frances, dont elle ne pouvait se résoudre à se séparer. Cette entreprise à laquelle elle se résignait, pour l'intérêt d'un être qui dédaignait le zèle et le mérite qu'il était incapable d'apprécier, donna lieu à une nouvelle publication portant pour titre « Lettres de la Scandinavie ». Cet ouvrage parle au cœur et l'intéresse de la manière la plus touchante. « Je supporte tout le poids de vos embarras », dit-elle dans une lettre particulière adressée à la même personne, « et je ferai certainement tous mes efforts pour terminer à votre satisfaction les affaires que j'ai entreprises. Mon ami, mon plus cher ami, je sens ma destinée liée à la vôtre par les liens les plus sacrés de mon âme et par les élancements d'un, oui, je puis le dire, d'un cœur pur et sans détour. Écrivez-moi par tous les courriers. Je suis inquiète de savoir comment vont vos affaires et encore plus impatiente d'être convaincue que vous ne vous éloignez pas de nous. Car mon petit amour appelle papa et ajoute toujours cette invitation que lui souffle la nature, viens, viens, et vous ne voulez pas venir. Je ne recouvrerai toute mon énergie que lorsque j'aurai la certitude que mes travaux contribueront à nous unir ensemble de la manière la plus indissoluble. Je gémis souvent quand je songe à la confusion qui règne dans vos affaires et à la tranquillité d'esprit que vous affectez. À présent même, je crains presque de vous demander si le plaisir de jouir de votre liberté ne surpasse pas la peine que vous éprouvez d'être éloigné de moi. Quelquefois, je m'abandonne au doux espoir de vous voir un jour me trouver nécessaire à votre bonheur. Sans cela, qu'aurions-nous besoin de nous réunir? Mais un moment après, le désespoir vient abattre mes esprits accablés par ces mouvements de tendresse qui savent adoucir la peine de la vie. Que le ciel vous protège. Les extraits suivants de ces lettres, quoiqu'elles n'aient paru que depuis sa mort, ne pourront manquer d'intéresser le lecteur. La dernière fois que nous nous séparâmes, la séparation n'eut lieu effectivement que de votre part. Aujourd'hui que vous avez agi plus franchement, souffrez qu'un tendre commerce de sentiments remplisse le vide pénible de l'absence. Je tremble déjà que vos projets ne s'évanouissent. Cependant, si quelque contretemps fâcheux, survenu dans vos affaires, vous ramenez près de nous, convaincu qu'un véritable ami est un trésor, je ne voudrais plus avoir aucun commerce avec le monde. Ne m'accusez pas d'orgueil, mais quelquefois, lorsque la nature a ouvert mon cœur à son auteur, je me suis étonné de ce que vous n'y régniez pas avant lui. Que devenez-vous? Comment vont vos affaires? Il se passera bien du temps avant que vous ne me répondiez à ces questions. Mon cher ami, mon cœur m'abandonne. Pourquoi suis-je donc ainsi continuellement forcé de combattre mes affections et les émotions de mon cœur? Ah, pourquoi sont-elles la source d'une si grande infortune, quand elles semblent m'avoir été données pour vivifier mon âme et embellir mon existence? Mais je ne veux pas m'appesantir sur ce sujet. Voudriez-vous ne pas me chérir avec toute l'affection dont vous êtes susceptible? Que dis-je? Oubliez-moi plutôt, si vous pouvez, si vous avez quelque attrait plus cher que de vous occuper de moi. Que mes souvenirs sont douloureux. Qu'est-ce que ce monde? Ceux-là qui ne cessent de jouir des plaisirs sensuels et artificiels se croient les seuls heureux. Adieu. Voilà le cinquième mortel jour que je suis retenu chez moi par le vent. Mais pourquoi m'en plaindre? La société ne pourrait éloigner mon cœur des souvenirs qui l'attristent. Combien le chagrin a fait sur moi de ravages. Lorsqu'à Lanta, il y a 10 ans, l'imagination pouvait encore tremper son pinceau dans l'arc-en-ciel de l'illusion et esquisser l'avenir sous les couleurs riantes. Maintenant, je vais chercher les rayons du soleil. Et en quel endroit de la terre ce cœur désolé pourrait-il retrouver la vie? Toute la nature semble s'attrister, ou plutôt partager mon deuil. Tout est glacé, et glacé comme mes espérances. Mon ami, je suis mal à mon aise. Mon cœur est écrasé par un poids énorme de chagrin. Je suis encore agité sur les vagues orageuses de la vie, et obligé de lutter contre l'infortune, sans être soutenu par l'espoir qui seul la rend supportable. Combien je trouve fade, insipide et stérile cet éclat dont les mortels sont ici-bas si jaloux. Il me tarde chaque soir de me mettre au lit, de cacher ma triste figure contre mon oreiller. Mais le ver rongeur que je nourris dans mon sein ne dort pas un moment. Croyez-moi, et mes yeux s'humectent de douces larmes de tendresse quand je vous donne cette assurance, il n'est aucun genre de privation auquel je ne me résignasse plus tôt que de troubler votre tranquillité. Si je suis destinée à être malheureuse, je veux m'efforcer d'ensevelir mes chagrins dans mon sein, et vous trouverez toujours en moi une amie fidèle et sincèrement dévouée. Mon attachement pour ma petite fille prend chaque jour une nouvelle force, et je nourris cette affection sans crainte parce que de longtemps elle n'offrira de sujet d'amertume à mon âme. C'est une créature bien intéressante. Combien de fois, sur le vaisseau qui nous portait, lorsque je fixais la mer, livré aux plus cruelles agitations, je brûlais de me précipiter dans son sein, affirmant avec Brutus que la vertu portée trop loin n'était qu'un vain nom. Sa vue seule, son innocent sourire, qui pénétrait fortement mon cœur, furent seuls capables d'arrêter ce coup de désespoir. Quel lot d'infortune m'a donc été réservé? Pour agir d'après mes principes, j'ai imposé la plus sévère contrainte à mes pensées. Oui, pour ne pas ternir la délicatesse de mes sentiments, j'ai commandé à mon imagination et j'ai repoussé avec effroi toutes les sensations qui se glissaient dans mon cœur et le portaient à la tendresse. Mon ami, j'ai acquis une conviction qui m'a coûté bien cher. L'amour dans quelques âmes est une affaire de sentiments dérivant de la même délicatesse de sens ou de goût qui nous rend sensibles aux beautés de la nature, à la poésie, etc. L'amour est le besoin de mon cœur. Je me suis examiné dernièrement avec plus d'attention que la première fois et j'ai trouvé que l'assoupissement ne procurait pas le repos à l'esprit. En cherchant la tranquillité, j'ai presque perdu toute l'énergie de mon âme, tout ce qui la distinguait le plus. Oui, je trouve ralenti chez moi cet enthousiasme de caractère qui convertit les plus grossiers matériaux en un feu subtil, qui procure imperceptiblement un aliment à l'espérance et qui aspire à des jouissances au-dessus de celles du vulgaire. Depuis la naissance de mon enfant, le désespoir a appesanti mon esprit. L'âme et le corps semblent se flétrir sous les coups destructeurs de l'affliction. Cependant, je ne me plaindrai pas. Il est des malheurs si grands que les expressions ordinaires ne sauraient les définir. Croyez-moi, rien n'est à comparer à un cœur ulcéré. Il existe des caractères qui, quoique doués de beaucoup d'énergie, et disposés même par réflexion à chérir une passion, ne peuvent se contenter des jouissances ordinaires de la vie. J'ai cherché à m'étourdir en me livrant ici à toute la dissipation possible. Ma peine n'est devenue que plus aiguë lorsque je me suis retrouvé seul avec mon enfant. Rien ne peut maintenant me plaire. Si les chagrins ne m'eussent pas dégoûté de la vie, les sites romantiques de ce pays, ces belles soirées, auraient de l'attrait pour mon cœur. Mon Dieu, n'est-il donc plus rien capable de m'intéresser? Et suis-je destiné à n'éprouver que des sensations pénibles? Mais, c'en est fait, je saurai y mettre un terme. Je suis à la veille de mon voyage pour... J'éprouve plus de peine à m'éloigner de mon enfant que je ne m'y étais attendu. Et pendant que toute la nuit, je m'imagine à chaque instant entendre les faibles sons de sa voix, je me demande comment je pourrais me séparer d'elle pour jamais et la laisser sans appui. Pauvre agneau ! Il est bien écrit dans un livre que j'ai lu que Dieu apaisera les vents en faveur de l'agneau dépouillé de sa toison. Mais comment puis-je espérer qu'elle trouve jamais un appui lorsque j'ai à combattre continuellement les plus affreuses tempêtes? Oui, je pourrais ajouter, avec le pauvre lyre, qu'est-ce que la guerre des éléments comparée aux angoisses d'un amour sans espoir et à l'horreur qu'inspire la découverte d'un abus de confiance qui brise le lien le plus doux de la société? À l'époque de nos premières liaisons, je n'étais pas ainsi abandonné. Je pouvais encore me confier à vous et vous ouvrir mon cœur. Vous m'avez privé de cette seule consolation. Et cependant, mon bonheur, me disiez-vous, était votre but le plus cher. Défaut étrange de jugement. Je ne me plaindrai pas. Mais d'après le témoignage de votre propre conscience, si vous voulez réfléchir un moment, vous conviendrez que votre conduite à mon égard, loin d'être généreuse, a été au contraire très injuste. Cependant, je n'avais pas l'intention de vous adresser de reproches. Votre silence est cruel, et ma raison est peut-être troublée par les malheurs continuels qui m'accablent. Écrivez-moi donc, mon ami, et écrivez-moi d'une manière précise. Dieu sait ce que j'ai souffert depuis que je vous ai quitté. Ah, vous n'avez jamais éprouvé ce genre de douleur. Mon âme, cependant, a beaucoup de peine à présent à s'émouvoir. Et le chagrin que j'éprouve est presque le dernier effort de l'agonie. Mais ce n'est pas là mon sujet de plainte. Il m'a procuré du plaisir, et le souvenir est tout ce qui me reste maintenant. Car à peine une étincelle d'espoir peut-elle encore luire dans mon cœur ulcéré. Je vais essayer de vous parler avec plus de calme. Je désire que nous vivions ensemble pour vous voir contracter l'habitude de chérir ma pauvre petite fille. Je ne puis supporter l'idée de la laisser seule dans le monde ou de savoir qu'elle ne doive attendre votre protection que du sentiment du devoir. Après ce qui intéresse son sort futur, mon désir le plus ardent est de ne pas troubler votre tranquillité. Dans cette vie, je n'ai rien à espérer et peu de choses à craindre. Il est des blessures dont on ne guérit jamais. Oui, je serai heureuse. Ce cœur est digne du bonheur que mon imagination lui prépare, et je ne puis même me persuader que mes principes et mes sentiments, malgré les infortunes qu'ils m'ont fait éprouver, ne soient pas fondés sur la nature et la vérité. Vous me dites que mes lettres vous font souffrir. Je n'essaierai pas de vous dépeindre l'effet que produisent sur moi les vôtres. J'en ai reçu 3 ce matin, dont la dernière est datée du 7 de ce mois. Je me garderai bien de vous faire connaître l'émotion qu'elles m'ont causée. Certainement, vous avez raison, nos âmes ne sympathisent pas. J'ai vécu dans un monde idéal et nourri des sentiments que vous ne pouviez sentir. Autrement, vous ne me traiteriez pas ainsi. Certainement, je ne suis pas et ne serai jamais un objet de compassion. J'imagine un moyen pour cesser de vous importuner. Oubliez que j'existe, et j'effacerai de ma pensée votre souvenir. Un mouvement énergique me porte à mettre fin à ces débats. Soyez libre. Je n'ai pas l'intention de vous tourmenter quand tous les plaisirs me sont refusés. Je puis entretenir mon enfant. Vous pouvez vous dispenser de me dire que notre fortune est inséparable. Que vous voulez vous efforcer de chérir pour moi la vertu. Ne vous faites pas violence. Lorsque nous serons séparés, nos intérêts, puisque vous attachez tant de prix aux considérations pécuniaires, le seront entièrement. Je n'ai que faire d'une protection dépouillée d'affection, et je n'aurai pas besoin d'assistance lorsque mes esprits seront dégagés de toute inquiétude. Je suis lasse de voyager loin de ma patrie, sans asile, relégué sur une terre étrangère. Combien de fois, traversant des rochers, si l'idée de cet enfant ne m'eût arrêté, j'eusse brisé ma tête contre leur pointe, pour ne plus revoir la lumière importune. Avec un cœur extrêmement sensible à toutes les affections, je ne trouverai rien de plus doux que la pierre qui me servira de dernier oreiller. Ce que je vis autrefois n'était qu'illusion. Je me trouvais sans cesse avec des familles qui étaient liées par des affections ou des principes. Et lorsque j'ai la certitude que j'ai rempli les devoirs de mon état, presque aux dépens de mon bonheur, je suis tenté de demander au ciel, en murmurant, « Pourquoi suis-je ainsi abandonné ? Quel signe, ou de principe ou d'affection, aussi extraordinaire qu'inutile, remarquez-vous dans mes questions ? Je ne puis le déterminer. Vous devez avoir reçu depuis longtemps 2 de mes lettres, 2 dans le même sens. Elles ne renfermaient, Dieu le sait, que les expressions du plus tendre attachement, et elles ne peignaient que trop fidèlement l'état critique de mon âme. De quel autre sujet pouvais-je vous entretenir ? C'était à vous à me rassurer. Vous vous êtes toujours retranché dans votre promesse de venir me joindre l'automne prochain. Est-il donc extraordinaire que je me permette de vous demander si je dois bien y compter ? Votre lettre est écrite avec une dureté extrême. Je suis accoutumé à votre froideur. Je n'y trouve aucune trace de tendresse, d'humanité et encore moins d'amitié. L'être tout-puissant qui a formé ce cœur aura sans doute prévu que sur cette terre, où l'intérêt, sous des formes différentes, est le mobile dominant, il me serait difficile de me soustraire à l'infortune. Je me soumets au décret du sort. Je ne me plains pas de mon malheur, mais je ne veux pas être un objet de mépris. Vous n'avez contre moi aucun sujet de plainte, si ce n'est de vous avoir trop favorablement jugé, d'avoir attendu de vous un bonheur durable, tandis que vous n'aviez pour but que de satisfaire des désirs passagers. Je conviens que je manquais de pénétration en m'unissant à vous. Votre tendresse semblait devoir me dédommager de toutes mes afflictions passées. Quelle confiance n'avais-je pas mise en cette tendresse et cette affection ? Mais hélas, je me reposais sur la lance qui m'a transpercé le cœur. Vous avez rejeté une amie fidèle pour satisfaire une fantaisie d'un moment. Ne me livrez point à une cruelle incertitude. Je n'attends rien de vous, ni d'aucun être vivant. Mon sort est arrêté. J'ai assez de courage pour me résigner à mon devoir, quoique je ne puisse relever mes esprits abattus et calmer mon cœur saisi d'effroi. L'être qui l'a fait ainsi sait bien que je suis incapable de déraciner le penchant qui cause le tourment de ma vie. Mais cette vie aura une fin. Je dois vous avouer que je suis cruellement mortifié par les offres continuelles de secours pécuniaires que vous me faites, et que je considère l'occupation de votre nouvelle maison comme une déclaration formelle d'abandon à mon égard. permettez-moi de vous dire que je périrai plutôt que de recevoir de vous la moindre chose. » Et ces paroles m'échappent lorsque je me vois frustré de quelques profits que j'attendais d'une entreprise. Mais je ne m'en plains pas. Ce nouveau surcroît d'infortune semble convenir à l'état habituel de mon âme. Je m'efforce de cacher dans la solitude le chagrin que je ne puis surmonter, car des souvenirs cruels qui ne me quittent jamais éloignent de ma pensée toutes autres idées. Ma vie n'est qu'un exercice continuel de courage, et l'espoir ne vient jamais éclairer cette tombe où je suis ensevelie vivante. Mon amour pour vous est enraciné dans mon cœur. Je sais que vous n'êtes pas, intérieurement, ce que vous semblez être en ce moment, que vous n'agirez pas et que vous ne sentirez pas toujours comme aujourd'hui, quoique je n'espère jamais avoir la consolation de jouir de votre changement. Mon image vous poursuivra partout, ma pâle figure vous apparaîtra, et quelquefois les pleurs du désespoir couleront sur un cœur que vous avez détaché du mien. Je ne puis écrire. Je me croyais la force de réfuter en peu de mots tous vos subtils raisonnements. Mais ma tête est troublée. Innocente et vertueuse, je suis misérable. Il me semble que ma conduite a toujours été dirigée d'après les principes les plus stricts de la justice et de la vérité. Néanmoins, combien ma sensibilité et ma délicatesse m'ont rendue malheureuse. J'ai aimé de toute mon âme, et pourquoi? Pour être convaincu que je n'avais aucun retour à espérer, et sans cela, la vie est un fardeau pour moi. Je ne vous comprends pas bien parfaitement. Si par l'offre de votre amitié, vous prétendez seulement me faire accepter vos secours pécuniaires, je vous répète que je la dédaigne. L'indigence ne peut ajouter que peu à mes malheurs. Dieu vous protège. Le ressentiment et même la colère ne sont que des mouvements momentanés pour moi. Je vous parle ainsi afin que si jamais vous pensiez à moi, vous ne puissiez pas me regarder comme une ennemie. Je n'oublierai jamais l'injustice avec laquelle j'ai été traité. Peut-être ne me le rappellerai-je pas toujours avec une douleur aussi amère qu'en ce moment. Car je commence à écrire maintenant avec plus de calme, mais je ne puis retenir mes larmes. Je reste confondu. Votre dernière conduite à mon égard me semble un songe effrayant. Ah, interrogez-vous, et voyez si vous ne vous êtes pas abaissé à employer avec moi un peu d'artifice, je dirais presque de fourberie indigne de vous. Les principes sont des choses sacrées, et on ne se joue pas impunément de la vérité. L'espoir, je l'ai trop longtemps chéri, de regagner votre affection s'affaiblit chaque jour davantage. En vérité, il me semble, quand je suis plus triste que de coutume, que je ne vous reverrai plus jamais. Cependant, vous ne m'oublierez pas toujours. Vous éprouverez quelques sentiments semblables au remords d'avoir vécu pour vous seul, et d'avoir sacrifié mon repos à des jouissances illusoires. Dans l'âge où vous aurez besoin de consolation, vous vous rappellerez que vous êtes une amie désintéressée dont vous avez abusé cruellement. L'heure de la réflexion sonnera. Et vous ne regretterez de vous être mal comporté que lorsque vous ne serez plus en état de réparer votre faute. Je sais que votre esprit, votre cœur et vos principes sont peu d'accord avec votre conduite présente. Vous me porterez un respect infini et vous serez fâché d'avoir perdu mon estime. Ceux que la lecture de ces lettres n'aura point ému doivent être bien insensibles. Celui pour lequel elle avait entrepris un voyage long et pénible, malgré l'altération de sa santé et l'abattement de son âme, lui avait fait espérer qu'il la rejoindrait peut-être à Hambourg, à son retour de Norvège, et qu'il passerait avec elle quelque temps en Suisse. Ses promesses étaient perfides. Les chagrins qu'elle en éprouva ajoutèrent encore à sa douloureuse situation. La conduite équivoque de M. Imlay l'engagea à retourner en Angleterre. Elle ne pouvait plus supporter une alternative si affreuse. Elle le conjura de s'expliquer au sujet de leur commerce futur, mais sa sollicitude fut encore abusée. Au commencement d'octobre, habitant à Londres un appartement que lui avait fait préparer M. Imlay, elle obtint enfin, par le moyen d'un domestique, la fatale conviction qu'elle recherchait. Dans le premier trouble de son âme à cette découverte, elle se rendit à la maison de la femme par qui elle avait été supplantée. Elle y rencontra M. Imlay. Il s'ensuivit une cruelle explication. Elle retourna chez elle dans une situation difficile à dépeindre. il faudrait une portion de sa sensibilité pour concevoir l'agitation que son âme éprouva. Elle médita de nouveaux actes de désespoir. Son courage naturel et ses sentiments élevés donnaient à l'excès de sa douleur une sorte d'héroïsme. Elle détestait l'existence. Elle s'apercevait que la passion extrême dans laquelle son âme avait cru trouver le bonheur l'avait promenée d'illusion en illusion, qu'elle l'avait enfin conduite au comble de l'infortune et qu'elle avait poursuivi un fantôme qui s'était dérobé à ses embrassements au moment où elle avait cru le saisir. En réfléchissant au passé, elle n'y voyait que des malheurs. L'avenir lui semblait obscurci d'un nuage épais. Son espoir, mille fois trahi, semblait pour jamais éteint. Son courage était épuisé par les souffrances. Elle sentait son âme privée pour jamais de son énergie. Elle résolut de mettre fin à sa triste existence et écrivit sur ses genoux le billet suivant à l'homme dont les goûts dépravés causaient sa perte. « Je vous écris cette fois sur mes genoux pour vous supplier d'envoyer mon enfant avec sa bonne à Paris et de la faire confier aux soins de madame, rue, section 2. Si elle avait changé de demeure, on pourrait se procurer son adresse. Faites remettre à la bonne tous mes vêtements sans distinction. Payez, je vous prie, à la cuisinière ses gages et ne lui parlez plus de l'aveu que j'ai arraché d'elle. Un peu plus tôt, un peu plus tard, je devais tout savoir. » Mon extrême stupidité pouvait seule m'aveugler si longtemps, et en effet, lorsque vous m'assuriez que vous n'aviez aucun attachement particulier, je croyais encore possible que nous habitassions ensemble. Je ne ferai ni représentation sur votre conduite, ni appel au monde. Je veux ensevelir avec moi le récit de mes peines. Bientôt, oui, bientôt je jouirai de repos. Lorsque vous recevrez ce billet, ma tête en ce moment brûlante sera glacée. J'aimerais mieux souffrir 1000 morts qu'une nuit comme celle que je viens de passer. Vos mauvais traitements ont réduit mon âme à un trouble affreux. Cependant, je conserve toute ma présence d'esprit. Je vais trouver enfin le repos, et ma seule crainte est que l'on insulte à mon cadavre pour me rappeler à une existence que j'aborde. Mais je me plongerai dans la Tamise. Là, je ne craindrai pas qu'on vienne m'arracher au trépas après lequel je soupire. Que la Providence veille sur vos jours. Puissiez-vous ne jamais connaître par expérience ce que vous m'avez fait endurer. Si votre sensibilité se réveille jamais, le remords se fera jour dans votre cœur et au milieu de vos affaires, dans le sein des plaisirs, la victime de vos funestes égarements s'offrira à vous. Après avoir écrit cette lettre, elle alla du côté de la rivière et loua un batelet avec la ferme intention de se précipiter dans la Tamise. Dans sa route, elle fit plusieurs questions au batelier qui la conduisait, et les réponses qu'il lui fit l'engagèrent à changer son plan de peur d'être arrêtée dans l'exécution. S'étant avancée jusqu'à Patnay, elle y débarqua. La nuit survint, une pluie abondante commença à tomber. Il lui vint à l'idée de continuer sa marche jusqu'à ce que l'eau eût pénétré ses vêtements, afin que leur poids l'entraînât plus facilement au fond. Pendant une demi-heure, elle continua à rôder çà et là, jusqu'à ce qu'enfin, n'apercevant aucun témoin, elle s'élança du haut d'un pont. Son courage ne l'abandonna pas, pliant autour d'elle ses vêtements mouillés, elle fit tous ses efforts pour couler à fond. Dans ces terribles instants, sa résolution chancela. L'idée de son enfant vint combattre tout autre sentiment. Les plus fortes angoisses de l'amour maternel qui se réveilla alors dans son sein ajoutèrent aux derniers efforts de la nature expirante. Mais il n'était plus temps. Elle fut rapidement entraînée par le courant, et, suffoquée par l'eau, elle perdit pour un moment le souvenir de ses infortunes. Un long intervalle s'écoula avant qu'on pût l'apercevoir du rivage. Mais par les procédés qu'on emploie ordinairement en pareilles occasions, on l'arracha des bras de la mort. Quelle que soit à cet égard l'opinion de ceux qui raisonnent de sang-froid et avec calme, sur la propriété des suicides, ou sur l'action de mettre fin à des sensations qui ne sont que la source des plus affreux malheurs, il est impossible de ne pas admirer le courage avec lequel cette femme infortunée exécuta son furieux dessein, ou de ne pas s'attendrir sur la situation pénible d'une âme ulcérée. M. Himley lui-même, touché d'un sentiment de remords passager que faisaient naître sans doute les conséquences sinistres qu'avait occasionné sa conduite, dans ce moment touchant, laissa apercevoir quelques symptômes d'humanité, en lui procurant tous les secours de l'art. Il la fit transporter dans la maison d'un ami commun, en l'assurant que la folle passion à laquelle il avait pu céder un moment n'avait aucune importance, et en lui donnant à penser qu'il reviendrait bientôt à elle, qu'elle avait acquis sur lui des droits les plus sacrés, et qu'il n'avait reçu de sa tendresse constante et désintéressée que des témoignages, hélas, trop funestes. Ces discours ranimèrent encore une fois les espérances de Marie. Incapable de supporter seulement l'idée d'être encore livrée à cet état d'incertitude qui avait torturé son âme, elle s'avisa de proposer un expédient non moins romanesque qu'extraordinaire. « Si nous devons vivre encore ensemble, dit-elle, que ce soit dès aujourd'hui. Réunissons-nous ou séparons-nous pour jamais. Vous dites que vous ne pouvez rompre sur le champ la liaison que vous avez formée. Il est indigne de mon courage et de mon caractère d'attendre l'issue incertaine de cette union. Je suis déterminé à en venir à une décision. Je consens donc pour le présent à vivre avec vous et la femme à laquelle vous vous êtes attaché. Je regarde comme très important que vous appreniez à sentir pour votre enfant l'affection d'un père. Mais si vous rejetez cette proposition, renonçons à tout rapport entre nous. Dès aujourd'hui, je vous dégage, nous n'aurons plus aucun commerce ensemble. Je serai pour vous comme si je n'existais plus. » M. Imlay ne parut pas désapprouver dans l'instant ce plan impraticable. Mais une petite considération l'obligea à rétracter un consentement qu'il avait donné précipitamment dans l'intention sans doute d'apaiser l'excès de la douleur de Marie Wollstonecraft. Le mois suivant, il fit avec le nouvel objet de ses soins un voyage à Paris, où il resta près de 3 mois. Après que Marie Wollstonecraft se fut installée dans un appartement situé à Finsbury Square, se séquestrant de la société, ses pensées se reportaient continuellement sur les circonstances de son affligeante situation. Elle nourrissait dans son cœur une affection que les souffrances les plus aiguës n'avaient pu altérer, et s'abandonnant à de douloureux souvenirs, la force de sa constitution commençait à se ressentir de l'abattement de son âme et sa santé à s'affaiblir tous les jours. Au retour en Angleterre de M. Imlay, dont elle cherchait toujours à excuser la conduite, elle se détermina à faire un effort pour obtenir de lui une entrevue, se flattant que son attachement présent, indigne de lui sous tous les rapports, ainsi qu'elle le jugeait, ne pouvait pas avoir une longue durée. L'entrevue qu'elle désirait lui fut refusée avec aigreur. Se trouvant par hasard quelques jours après dans la maison d'un ami commun, elle apprit que M. Imlay était alors dans un appartement voisin à faire sa partie avec quelques gentilshommes. Forte de la justice de sa cause, et encouragée par le sentiment des offenses non méritées qu'elle éprouvait, elle résista aux sages représentations de l'ami qui aurait voulu la détourner de son projet, et entrant précipitamment dans la salle où ces messieurs étaient réunis, elle porta son enfant, alors âgé de près de 2 ans, sur les genoux de son père. Confondu par sa présence et par son action, M. Imlay passa avec elle dans une autre chambre, et sur sa demande, il lui promit d'aller la voir le lendemain chez elle. Il tint parole, et par un discours amical, il apaisa l'angoisse qui la dévorait. Un doux rayon d'espoir sembla percer à travers l'obscurité dont elle était environnée. Mais, semblable à un météore passager, après avoir ébloui un moment son œil fatigué par la douleur, il s'éclipsa. Dans cette entrevue, il affecta encore de parler de retourner à elle, quand il serait revenu des égarements du libertinage, avec une âme corrompue et probablement une constitution altérée, et de se reposer sur la foi à toute épreuve de la seule femme qu'il eût jamais aimée sincèrement, l'engageant à continuer de porter son nom, auquel il lui protestait avec véhémence qu'aucune autre femme n'aurait jamais aucun droit. « Ce n'était pas pour le monde, dit-elle dans une lettre à un ami, que je consentis à cette demande, mais je ne voulais pas rompre le nœud gordien qui m'attachait encore à lui. » Le lendemain, elle partit de la ville et alla passer quelques semaines à la campagne chez une de ses amies. À son retour de ce petit voyage, de nouvelles circonstances vinrent lui fournir une plus ample conviction de la duplicité et de la perfidie de l'être qu'elle avait si constamment et si tendrement aimé. Dès lors, elle résolut de rappeler tout son courage et de bannir de son cœur un attachement que la raison et ses principes réprouvaient également. Un attachement qui devenait dégradant pour son caractère et qui ne lui avait que trop longtemps occasionné les peines les plus cuisantes. faisant un dernier effort pour recouvrer sa liberté et sa tranquillité, elle chercha décidément à repousser ces souvenirs fatals qui étaient enracinés dans son esprit, qui anéantissaient ses facultés et troublaient son repos. Elle mit à profit ses talents, se résigna au travail, changea de résidence et adressa à l'homme dont l'inconstance lui avait été si funeste ses dernières réflexions. « C'en est fait, convaincu que vous n'êtes susceptible envers moi ni d'égard ni d'amitié, je me garderai de vous adresser le moindre reproche, quoique j'aie trop de raisons de penser que vous les méritez. Cependant, cela m'inquiète fort peu. Je suis contente que vous vous félicitiez de votre conduite. Je vous assure aujourd'hui solennellement que c'est mon dernier adieu. Je ne renonce pourtant pas aux devoirs qui m'attachent à la vie. Il est bien singulier que, malgré tout ce que vous m'avez fait éprouver, une espèce de conviction me force à croire que vous n'êtes pas tel que vous paraissez être. Je me sépare de vous sans qu'il m'en coûte. » Cette lettre, qui mit fin à sa malheureuse passion, fut écrite en mars 1796. Quoique affaibli par les chagrins, son esprit toujours actif n'était pas resté oisif, et c'est peut-être la preuve la plus frappante qu'elle put donner de la supériorité de ses talents que d'avoir été capable d'écrire dans la situation malheureuse où elle s'était trouvée. Ses lettres sur la Norvège avaient été écrites et disposées pour l'impression, ainsi que l'esquisse d'une comédie dans laquelle elle avait fait entrer de sérieux incidents calqués sur ses propres aventures, dans l'intervalle des derniers 10 mois pendant lesquels elle conçut 2 fois la résolution de se donner la mort. Jusqu'ici, en retraçant la vie de cette admirable femme, le chagrin en a marqué toutes les pages. Son histoire offre une suite presque continuelle de peines, de combats, d'afflictions les plus vives. En y réfléchissant avec attention, nous sommes tentés de nous servir des expressions d'un éloquent écrivain. À quoi servent les talents et la sensibilité dans le désert corrompu de la société humaine? C'est un fumier infect et pourri. Le plus bel arbrisseau qui naît dans son sein devient un poison à mesure qu'il croît. Ainsi, on y voit se convertir en jusquiame et en morel toutes les plantes qui, dans un champ plus sain et sous un climat plus pur, se seraient déployées avec beauté et auraient donné d'utiles rejetons. Le nuage qui avait obscurci sa destinée commençait à se dissiper. L'horizon s'éclaircissait, et l'espérance, étendant ses rayons sur l'obscurité, répandit sur les dernières années de sa vie, sur lesquelles nous jetterons un coup d'œil rapide, un éclat doux et bienfaisant. Au commencement d'avril 1796, Mary Wollstonecraft se retira à Pentonville, dans le voisinage de Somerstown, où résidait M. William Godwin, écrivain d'un mérite distingué. La hardiesse et la singularité de ses raisonnements avaient éveillé l'attention et provoqué la discussion dans le monde philosophique et littéraire. M. Godwin avait rencontré par hasard Mary Wollstonecraft dans une maison antérieurement à son voyage sur le continent. Mais différant beaucoup de principes à cette époque, ils s'étaient perdus de vue, en conservant l'un de l'autre des impressions mutuellement défavorables. Leur connaissance se renoua alors dans une réunion qui eut lieu chez un de leurs amis communs qui avait imaginé cette entrevue dans le dessein de détruire leurs préjugés et de distraire les chagrins d'une femme dont les talents et les malheurs lui avaient inspiré le plus touchant intérêt. Cette rencontre fit naître entre les parties un plus haut degré d'intimité. Des rapports de confiance et d'amitié qui succédèrent ouvrirent bientôt la route à des sentiments plus tendres. Le chagrin adoucit l'âme et la rend sensible aux émotions d'une douce sympathie. Fatiguée par les calamités si peu méritées dont elle avait été si longtemps la proie, soupirant après les affections domestiques et sociales si chères à son cœur sensible, supportant avec douleur le genre de veuvage le plus cruel, ayant rompu pour jamais ses premiers nœuds, pénétrée des connaissances éminentes et touchée du mérite et de l'amabilité de M. Godwin, l'âme sensible de Mary Wollstonecraft donna imperceptiblement accès à de nouvelles impressions qui lui paraissaient plus dignes d'elle et qui lui promettaient plus de stabilité que les précédentes. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait banni de son âme les tristes restes d'un attachement qui était enfin devenu incompatible avec le respect qu'elle se devait à elle-même. M. Godwin, d'après ses propres opinions, n'était pas portée à l'état du mariage. On suppose sans doute aussi que les facultés pécuniaires de Marie devaient être bien faibles. Mais avec la délicatesse d'âme dont elle était douée, on doit bien croire aussi qu'elle n'en fit aucun mystère. M. Godwin, en considération des désagréments qu'elle avait déjà éprouvés, et auxquels, en raison des usages de la société, la femme qu'il aimait pourrait être encore exposée, surmonta ses propres scrupules avec une générosité qui l'honore, et consentit à sanctionner l'union qui régnait entre eux par les formalités nécessaires. M. Godwin céda à cet égard au désir de sa femme, qui venait déjà de fournir au public tant de matière à conversation. Ce fut alors que son cœur ranimé commença à goûter le repos, qu'en paix avec elle-même, elle répandit autour d'elle la tranquillité dont elle jouissait. Ses idées de bonheur réel s'étaient toujours concentrées dans le cercle des affections domestiques. En cherchant à les réaliser, elle avait été enveloppée dans des malheurs qu'elle n'avait pas mérités. Les âmes les plus fortement constituées sont les plus sensibles aux charmes de l'affection sociale et des plaisirs de la nature. Si la sensibilité de cette femme extraordinaire eût rencontré de bonne heure l'objet qui lui convenait, occupée de ses devoirs d'épouse et de mère, elle eût poursuivi sa carrière avec sérénité. Le plus tranquille ruisseau qui s'écoule au sein de la prairie qu'il fertilise, s'il trouve un obstacle dans sa course, devient un torrent destructeur. Ainsi, les fortes passions qui portent le ravage dans l'âme et qui désolent la société ont leur origine dans l'opposition et la contrainte. Les lois de la nature gouvernent les usages de la société. Ces décrets ne peuvent être étouffés par les préceptes de l'art. Ceux qui, sans s'être rendus coupables ni d'erreur ni d'imprudence, se trouvent privés des consolations ordinaires attachées à l'humanité, seront à même d'apprécier l'étendue de cette privation dont l'injustice accroît beaucoup l'importance. Par suite des institutions civiles et du libertinage qui en est la suite, une portion nombreuse des femmes est réservée au célibat. Et cependant, leur importance, leur existence civile, leur plaisir et le respect qu'on doit à leur sexe sont, à quelques exceptions près, liés avec l'état du mariage. Malheur à ces victimes du vice et de la superstition, si trop familiarisées avec l'hypocrisie, elles ne peuvent étouffer à leur naissance ces sentiments qui auraient constitué leur bonheur et leur gloire. Cette sensibilité, qui est le charme de leur sexe, dans de semblables situations, devient leur perte. En se soumettant à leur destinée, le dédain est presque toujours leur partage. En outre, si elles passent les bornes qui leur sont fixées, une seule erreur les entraîne dans un labyrinthe de fautes et de malheurs. La réflexion ne saurait leur faire dédaigner ces distinctions qui, en confondant les mœurs et le crime, empoisonnent la vertu dans sa source. Entraînées dans une mer d'injures et de reproches, une foule d'ennemis assiège leur passage, exagèrent leurs faiblesses, dénaturent leurs principes, leurs actions, et avec une méchanceté indigne et une constance impitoyable, s'efforcent de les priver des droits de la vie civile. Le vengeur des droits de la femme a été à même d'éprouver la vérité de ses réflexions. « Ceux qui sont assez insensés, dit-elle dans une lettre à un ami, pour se mettre au-dessus des préjugés de leur siècle, et pour rejeter par la force de leur propre jugement les erreurs que le règne des Lumières fera un jour disparaître, doivent s'étudier à braver la censure. Je ne suis pas avide de vengeance. Ceux qui me connaissent supposeront que je me suis conduite par principe. Mais comme, en général, nous jugeons le mérite des autres d'après celui que nous possédons, je m'inquiète fort peu des discours de la majeure partie du genre humain. Je me contente de l'approbation de ma conscience. » Son union avec M. Godwin, quoique revêtue de formalités que la prudence ne leur avait pas permis de violer, l'exposa encore au discours du monde. Elle remarqua d'abord avec surprise, puis avec douleur, quelque altération dans l'accueil que lui faisaient ses connaissances. Mais elle finit par ne plus s'en affecter. Le témoignage d'une âme comme la sienne devait lui suffire. Des sentiments plus doux occupaient alors ses pensées. Entourée d'amis respectables et éclairés, qui étaient à même d'apprécier ses belles qualités, heureuse au sein de son ménage, son cœur reprenait son ardeur et son génie retrouvait sa force et reprenait son essor. Les délassements littéraires, les soins domestiques et les plaisirs de la société remplissaient et charmaient ses loisirs. tandis qu'elle jouissait d'avance du moment qui, en venant augmenter sa sollicitude maternelle, allait lui offrir une nouvelle source d'affection. Elle était idolâtre, dit son biographe et son mari, de la vie domestique. Elle aimait à remarquer l'accroissement d'affection qui régnait entre moi et sa fille, alors âgée de 3 ans, ainsi que la sollicitude que m'inspirait l'enfant qu'elle portait dans son sein. L'état de grossesse même, sujet à bien des variations, ainsi que semble l'être à cet égard l'ordre de la nature, est la source de 1000 jouissances. Personne ne savait mieux que Marie trouver des sensations agréables dans une infinité de petites circonstances que d'autres eussent à peine remarquées. En faisant quelquefois avec moi et son enfant une petite promenade champêtre, la sensibilité de son cœur se développait. Une sorte de gaieté enfantine, quoique noble, que ceux qui l'ont éprouvée comprendront facilement, mais que j'essaierai vainement de dépeindre, venait animer notre entretien. Elle n'était pas d'un caractère à languir dans l'oisiveté. Elle employa les talents qu'elle avait reçus de la nature sous différentes vues d'utilité. Elle fit paraître un ouvrage que depuis longtemps elle avait l'intention de donner au public, intitulé « Les torts de la femme ». Dans le dessein de démontrer les maux qui proviennent des lois et des coutumes des institutions civiles, plus particulièrement funestes à leur sexe. Maux dont elle n'avait que trop sujet de se plaindre. Elle traça un recueil de lettres sur l'éducation des enfants qu'elle se proposait de soumettre à la révision d'un médecin de ses amis et dont la lettre introductoire a été insérée dans ses ouvrages posthumes. Elle composa aussi quelques volumes pour l'instruction des enfants, dont un fragment trouvé dans ses papiers a depuis été mis au jour. Il est à présumer, d'après l'esquisse qui a paru de son roman, qu'elle s'était proposée d'y apporter une sérieuse attention. Elle connaissait les difficultés qui accompagnent ce genre de composition, méprisée par les pédants, mais dont l'exécution parfaite demande un degré de génie au-dessus du commun. Pénétrée de cette conviction, elle y travailla lentement et y faisait des changements fréquents. La première partie de cet ouvrage, et la plus achevée, l'histoire de Jemima, jeune fille abandonnée dans son bas âge, entraînée dans le vice et l'infamie par l'oppression et le malheur, est conçue et exécutée avec esprit et originalité. Les autres volumes, bien inférieurs au premier, dans un état imparfait, semblent cadrer avec les circonstances malheureuses où se trouva l'auteur. Il est vraisemblable que si elle eût assez vécu pour terminer cet ouvrage, elle l'eût dégagé d'une partie de ses fautes. Au milieu de ses perspectives agréables, elle éprouva les douleurs de l'enfantement, le mercredi 30 août 1797, qu'elle supporta avec son courage accoutumé, et que la manière heureuse dont elle en avait été délivrée à son premier enfant lui faisait entrevoir avec calme. Elle avait toujours été d'avis qu'en pareil cas, il était plus convenable d'avoir recours à une sage-femme et que malgré les vices attachés au genre d'éducation qu'elles reçoivent, elles étaient assez habiles pour les cas ordinaires. Malheureusement, celui où elle se trouva ne se montra pas de cette nature. À une délivrance bien retardée, succédèrent des symptômes dangereux, effrayants pour sa sûreté et pour la tendresse de ses amis. Quelques jours après, des apparences un peu plus rassurantes ranimèrent leur espoir. Mais le lundi suivant, cette flatteuse attente fut remplacée par la plus cruelle sollicitude. On lui administra en vain tous les secours que l'art de la médecine et que la tendresse de l'amitié purent suggérer. Supportant ses souffrances, quoiqu'elle sentît bien le danger de sa situation, avec une douceur et une patience édifiantes, elle languit ainsi jusqu'au lundi suivant, 10 septembre, jour qu'elle expira à 7h40 du matin. Il ne paraît pas qu'elle ait cru qu'elle en mourrait jusqu'aux 2 jours qui précédèrent cet événement. Elle y songeait de temps en temps, mais sans cependant s'arrêter longtemps à cette idée, toutes ses forces étant alors fort épuisées. Les sentiments religieux qu'on lui avait imprimés dans sa jeunesse n'étaient pas de nature à lui inspirer une grande terreur à ses derniers moments. Son imagination s'était formée de la divinité, un être indulgent et bon. Elle se reposait avec confiance en lui. Ses restes furent déposés dans le cimetière de Saint-Pancras, Middlesex, où l'on a depuis érigé à sa mémoire un simple monument portant l'inscription suivante. Marie Wollstonecraft, auteure de la Défense des droits de la femme, née le 27 avril 1759, morte le 10 septembre 1797. Il serait difficile de jeter un coup d'œil sur la vie de cette femme étonnante sans être saisi d'un sentiment mêlé de tendresse et de respect. L'idée de ses égarements, et quel est celui qui, avec des sentiments aussi vifs et des passions aussi bouillantes, peut se flatter de n'avoir jamais commis d'erreur, est effacée par le touchant intérêt qu'inspirent ses malheurs et le respect que commandent ses vertus. Les qualités de son cœur et le haut degré de jugement dont elle était douée semblent être les dons qu'elle tenait de la nature, et ses erreurs et ses souffrances n'être que l'effet de la corruption et de la prévention des autres. Les facultés et les ressources de son âme, au milieu des inconvénients attachés à son sexe et à son état, annoncent des talents de premier ordre. Ses idées étaient folles et originales, sa manière libre de penser et son courage à combattre les opinions reçues, dignes d'admiration. Née dans l'obscurité, inconnue et rebutée, elle s'est élevée elle-même, par ses propres travaux, à un tel degré qu'elle a mérité l'attention publique et obtenu une célébrité qui fait honneur au pays qui lui donna le jour. Une sensibilité et une tendresse extrêmes, accompagnées d'une énergie et d'un courage vraiment mâle, union si rare, sont les traits qui caractérisent essentiellement Mary Wollstonecraft. Avec le penchant insurmontable qu'elle avait pour un attachement individuel, qui, en concentrant ses sentiments, pouvait rétrécir son cœur, elle possédait la plus rare philanthropie, et les œuvres de bienveillance lui étaient naturelles. Si on alléguait qu'elle fût inconstante dans ses attachements, il suffirait de mettre sous les yeux les circonstances de sa malheureuse passion et la peine qu'elle eut à se détacher d'un objet indigne de ses affections. Sans doute sa conduite fut quelquefois imprudente, quelquefois coupable. Elle ne fut pas non plus exempte des caprices de la sensibilité ni des inégalités de l'esprit. C'est un aveu humiliant sans doute, mais l'ignorance et la lâcheté seules pourraient y trouver quelque consolation. Pour croire qu'un être humain puisse fréquenter la société sans être atteint de la corruption qui y règne, il faudrait ne pas connaître la nature sympathique de l'âme. Celui qui cherche la perfection démontre le peu de connaissances qu'il a de lui-même ou de ses semblables, et celui qui l'attend d'un caractère ardent a bien besoin de feuilleter encore le livre de la nature. Ceux qui se plaisent à découvrir les faiblesses des caractères les plus marquants devraient bien avoir la charité de peser, dans la même balance, leurs qualités et leurs talents supérieurs. Pour réveiller une solide émulation et les passions les plus nobles, un grand caractère devrait être placé dans son véritable jour et à un certain point de vue. Celui dont le cœur n'est pas enthousiasmé par l'exemple des grands hommes s'élèvera difficilement à de grandes choses. Cette pensée est conforme à l'opinion du philosophe français Helvétius. Son sexe a perdu, par la fin prématurée de cette femme extraordinaire, un défenseur vigoureux. Elle n'a cependant pas travaillé en vain. L'esprit de réforme se propage en silence, et qui peut déterminer où il s'arrêtera? Nous ne savons rien de certain sur la marche des progrès de Marie. Mais nous sommes portés à croire que, de même que la majorité de son sexe, ses études furent conduites avec peu de méthode sous la direction de son goût et de ses sentiments. Il ne paraît pas qu'elle se soit adonnée aux sciences, ou qu'elle eût des prétentions au titre de savante dans le sens propre de ce mot. Elle avait appris le français insensiblement dans la conversation, dans le dessein de se livrer à des traductions. Elle s'était aussi appliquée à la langue allemande dans le même but. Se fiant trop à la force de ses facultés et à la richesse de son imagination, elle avait dédaigné l'étude de la grammaire et des règles de la langue de son pays. Erreur dont elle se repentit beaucoup sur les derniers temps de sa vie. Son âme dut sans doute son énergie aux embarras qu'elle éprouva de bonheur, à la force de ses passions et à la nécessité où elle se trouva de se suffire à elle-même. Sa taille était moyenne et bien proportionnée. Sa figure pleine, ses cheveux et ses yeux bruns, ses traits agréables, sa voix douce et susceptible de modulation, quoique d'une faible étendue, lorsqu'elle s'abandonnait dans une conversation familière et amicale, ses manières et son ton gracieux subjuguaient le cœur.